De tous les députés actuels ou anciens de la Chambre des communes, mon invité a un parcours on ne peut plus singulier. Il a d'abord connu le pouvoir comme député du gouvernement progressiste conservateur de Brian Mulroney. Il a aussi marqué l'histoire en faisant partie d'un groupe de progressistes conservateurs qui démissionnent du caucus pour siéger comme indépendant en 1990 à la suite de l'échec de l'accord du lac Meech. Il fait partie du groupe de 7 députés qui ont fondé le Bloc québécois la même année. Élu pour la première fois en 1984, jamais il ne connaîtra ensuite la défaite. Il devient doyen de la Chambre des communes en 2008 et fait par la suite tomber un à un les records de longévité au Parlement d'Ottawa. J'accueille le député de Bécancourt, Nicolas Sorel, Louis Plamondon. Monsieur Plamondon, bonjour.
Oui, bonjour.
Commençons par le début. Vous êtes né à Saint-Raymond, dans Portneuf.
Oui,
vous avez.
Jusqu'à l'âge de. Jusqu'en sixième année.
Donc vous avez passé une bonne partie de votre jeunesse à Québec par la suite.
Oui.
Parlons de cette époque de votre vie. Le plus particulier, c'est votre écart d'âge entre vous et votre père.
Oui, parce que mon père s'est marié pour la première fois à 52 ans. Alors, quand je suis venu au monde, il y avait 55 ans. Alors, j'ai été élevé plus par un grand-père que par un père. Et il est mort à 94 ans. Par contre, ma mère avait 36 ans, elle était beaucoup plus jeune, mais elle est morte du cancer à 57 ans. Donc là, j'avais presque 14 ans, donc c'était très difficile parce que ça s'est fait rapidement, l'annonce, en 15 jours. Elle est entrée à l'hôpital pour un mal sur le côté du sein, et c'était le cancer du sein qui était généralisé. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui de détection et de traitement. Si bien que je me suis ramassé seul avec mon frère Luc. Mais Luc, l'année suivante, le compositeur, là, il est parti, il a eu une bourse pour étudier au Mexique l'espagnol. Il est allé là quelques mois, puis ensuite il s'est en allé en France, étudier à la Sorbonne. Ensuite, il est allé étudier en Angleterre. Ensuite, il est allé étudier à Malaga, en Espagne. Puis ensuite, il a appris l'allemand, il est allé étudier la littérature allemande en allemand. Si bien qu'il est revenu... Il est revenu, il avait 20 ans, puis moi, je l'avais brûlé depuis ce temps-là. Et j'avais une petite sœur de 12 ans. Et dans ce temps-là, mon père a dit, une petite fille, ça ne reste pas à la maison toute seule sans mère. Donc, il avait été placé dans une espèce d'orphelinat. Pas une orphelinat, mais une école. Elle passait l'été chez nous, mais elle passait l'hiver, ses études au couvent pensionnaire à Saint-Raymond.
Et vous, quels étaient à l'époque vos champs d'intérêt lorsque vous étiez enfant, adolescent?
Alors moi, mon frère, c'était l'intellectuel qui à 14-15 ans, avait déjà des chansons écrites et même une pièce de théâtre, je me rappelle. Puis, moi, c'était plutôt le type sportif. Là, on n'avait pas de ligne organisée comme aujourd'hui, puis ça, mais on était un groupe de millions, on jouait au baseball, on jouait au hockey, on jouait au hockey dans la rue. Donc, c'était beaucoup sportif, puis en même temps, passionné par la politique, même à 16 ans. À 13 ans, là, je suivais toute la politique internationale à l'aide du journal Le Soleil. Il y a toujours la première page, il y a toujours la politique internationale. Je suivais ça. J'aimais les rassemblements politiques. Il y en avait beaucoup, des rassemblements publics dans des parcs là, lors des campagnes électorales. Tout le monde s'en allait là avec sa voiture, puis ça se stationnait. Ça jouait du criard quand on voulait applaudir. Et puis aussi, il y avait du monde à l'avant comme ça. Et j'écoutais les grands discours de Jean Lesage, les grands discours de tous de Duplessis et tout ça. Alors, je suis à tous les partis. Et après ça, j'ai été rapidement fasciné par le mouvement indépendantiste, le RIN, là, qui a été fondé par un ami Barbeau, qui était un fonctionnaire fédéral qui a été renvoyé pour avoir dit qu'il était pour la souveraineté, l'indépendance du Québec. Quoi. Alors, ça m'a fait passionner, puis j'ai lu son livre. Et là, j'ai commencé à militer dès là, dans l'URN. J'ai toujours, jusqu'à sa dissolution, j'ai assisté à l'Assemblée de dissolution, qui était très triste. Les gens pleuraient, mais Bourgault a fait un discours extraordinaire. Il dit, on n'a pas les moyens de se diviser. Et il faut, et à l'heure actuelle, le Parti québécois qui vient d'être fondé a l'élan et on va travailler à l'intérieur du Parti québécois. On va pouvoir revendiquer nos idées de l'intérieur quand même, mais il faut avoir une seule force. Et ça, je vous dirais qu'aujourd'hui, je me rappelle ce discours-là, puis quand je pense à l'heure actuelle où il y a deux partis, Québec solidaire puis le Parti québécois au Québec. Je sais qu'il y en a, celui qui est Québec solidaire devrait avoir le courage que Pierre Bourgault a déjà eu.
Avant d'arriver, d'en faire un métier de la politique, vous avez enseigné les mathématiques. J'aimerais vous entendre sur cette première carrière. C'est d'ailleurs l'enseignement qui vous a amené à Sorel.
Exactement. En février, j'étais à suivre mon cours à Québec et le directeur général cherchait des professeurs parce qu'il y avait un boom économique à Sorel avec la construction de bateaux. Il y avait aussi les cinq compagnies qui sont maintenant disparues, qui avaient 400 employés et plus. Et donc, il y avait un agrandissement du côté de Tracy, surtout une nouvelle école, l'école La Plume. Alors, c'était le nom du curé de la paroisse. Et on cherchait des professeurs. Et lui voulait avoir des professeurs masculins à la septième année parce qu'il y avait des difficultés. Les jeunes doublaient, mais il avait 16-17 ans. Alors, il était venu nous rencontrer en classe, il avait tout expliqué son plan, puis il nous avait aussi dit que le salaire serait aux alentours de 4 200 avec la nouvelle convention par année, alors qu'à Québec, c'était 3 400 qui était déjà signé. Alors, c'était déjà intéressant dans le temps, c'était une grosse différence, c'est quand même plus quasiment 30 %, là, tu sais. Alors, puis il n'y avait pas beaucoup de place à Québec, mais eux autres, il y avait de l'avenir, là, tu sais. Puis moi, je n'avais pas d'attachement à Québec. Puis, ma mère était morte, mon père s'était remarié, puis il demeurait dans la petite ville de Portneuf. Moi, je restais en pension d'une place à l'autre. Alors, j'ai signé le contrat en février. En juin, j'ai fini mon cours et je suis arrivé à enseigner au primaire pendant 4 ans, en septième année. Et là, la septième année a disparu. Alors là, il fallait que j'aille ailleurs. Donc là, je suis allé au secondaire. Et c'est là que j'ai travaillé à la polyvalente Fernand Lefebvre dès son ouverture, jusqu'au mois où j'ai fini mon année d'enseignement au mois de juin, puis le 9 juillet, c'était l'élection, puis j'ai été élu pour le mois de septembre, le 4 septembre 1984.
Et l'expérience avec les jeunes, qu'est-ce que vous en retenez?
Oh, c'est la plus belle expérience. Je vous avoue qu'à tous les mois de septembre, quand je passe dans les écoles puis que je vois les jeunes arrivé pour la première journée, là, à fin août maintenant. Et ça me touche. Ça me fait c'est des émotions parce que c'était. Je pense que c'est le plus beau métier du monde, transmettre la connaissance à l'autre génération. Ça se fait plus de la même manière, mais c'est encore absolument nécessaire. Hein. On leur apprenait la connaissance, mais maintenant on leur apprend à apprendre la connaissance à l'aide de techniques. C'est différent. Ça doit être moi, j'aimerais moins ça, il me semble. Mais j'étais passionné. J'ai jamais mis un élève à la porte. Dans tout mon cours, je récupérais quand il allait mal et je m'assurais qu'ils réussissent leur année. Au point que quelquefois, je les avertissais au début de l'année, si ça ne fonctionne pas, je vais aller chez vous le soir et vous donner un cours de répétition. Je m'arrangeais toujours au début de l'année pour chaque classe, aller sonner à un de ceux qui avait mal réussi son examen. Il s'était dit que ça se savait, le lendemain dans l'école, puis il ne voulait pas me voir la face là après le soir chez eux. T'sais. Alors, c'était une façon de faire de la discipline, mais pour aider au fond l'étudiant.
Comment êtes-vous par la suite arrivé à la politique? Ou je devrais peut-être dire comment la politique est arrivée à vous?
Ouais. Ben, c'est continuer, moi, de suivre ça avec intérêt, passion. J'étais membre du Parti québécois, puis j'allais aux assemblées, tout ça. Puis, mais tout à coup, aussi, j'étais très impliqué dans le communautaire. J'étais fondateur du Club Optimiste, un des fondateurs du Club Lyon. J'étais président de la Chambre de commerce. J'étais président du Centre communautaire. Mon Dieu, j'étais dans les comités de consultation, éducation, travail du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, j'étais dans à peu près tout ce qui bouge, là. J'étais présent dans le monde culturel également. Le monde sportif, pas beaucoup pour y participer moi-même, mais pour aider au niveau de l'organisation dans le domaine du sport, là, surtout en termes de commanditaire, puisque je m'étais acheté un restaurant en plus. Donc, j'enseignais, j'avais le restaurant, Et j'avais parti le théâtre d'été, le Chenal du Moine. C'était quelque chose de... J'avais des journées remplies, mais je continuais d'être très, très impliqué. Donc, très connu dans ma région, et Sorel, c'est 60 % du comté. 20 % c'est la MRC Nicolette, 20 % la MRC de Bécancour, puis que je connaissais très peu, là. Très, très, très peu, pour avoir passé quelques fois, mais pas plus, là. Heureusement, j'avais Michel Morin, une bonne connaissance, qui m'avait, après ça, guidé pour la première élection. Mais, alors, à un moment donné, des gens viennent à la porte, c'est des amis que j'avais dans le Club Optimiste et tout ça. Ils sont quatre, ils disent, Louis, et là, on a décidé d'appuyer le Parti progressiste-conservateur, puis on te verrait comme candidat. Moi, je n'ai jamais pensé d'être candidat, là, je suis apolitique, j'aime ça, mais c'est tout. Puis à part ça, j'ai dit, le comté tel qu'il était défini dans la distance, dans le temps, 60, depuis la Confédération, ça avait toujours été libéral, à l'exception de trois ans, 1891. J'ai dit, on n'a pas grand-chance là, là. Ah, il dit, non, tu vas voir. Il dit, ah, je dis, ça ne m'intéresse pas. Son 10 jours, 2 semaines après, il m'appelle, il vient nous rencontrer au restaurant. Je vais au restaurant, il était une douzaine. Il dit, ah, Louis, tu as dit, on va avoir... telle personne pour nous autres, telle personne, mais dans le compte de banque, il n'y avait pas un sou. Il y avait 14 membres en règle dans le parti, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ouais, et je trouve que c'est pas à 12 qu'on va faire une élection certaine. Fait que là, ils me disent, écoute, là, si on se donnait dans 15 jours que tu rencontres un groupe, là, ben, j'ai dit, s'il y avait 100 personnes, peut-être que là, je commencerais à y penser. Puis quand je suis arrivé, il y avait 150 personnes dans la salle. Oups, là, j'étais coincé pas mal, puis j'ai tombé dans le panneau, j'ai dit oui. Alors, je suis devenu candidat à l'investiture qui avait lieu au début de juin.
84,
là, et là, j'ai été choisi candidat. Puis ensuite, l'élection a été déclenchée presque le 9 juillet, et ça a été pour le 4 septembre. Donc, moi, j'ai eu le temps de finir mon année scolaire, passer... mes vacances en campagne électorale et a été élu le 4 septembre, avant la rentrée scolaire qui s'effectuait dans le temps après la fête du travail. Aujourd'hui, c'est en août, à fin août. Alors, c'est là, puis là, bien, quand j'ai été choisi, mes amis libéraux, il y en avait aussi, je veux dire, je les côtoyais à tous les partis. Moi, là, j'étais dans le président de la Chambre de commerce et tout ça. Fait qu'ils me disaient, Louis, t'arrêtes-tu de le dire? Tu voulais faire de la politique? On arrête ton sénateur, on arrête ton... On t'a retrouvé une place, voyons donc, ça n'a pas de bon sens que tu t'ailles te brûler là tout de suite, comme ça, à ta première expérience. Ah, ben j'ai dit, écoute, là, j'ai dit oui, à ce temps, je ne peux pas renier ma parole. Puis j'ai dit, j'aime les grands défis. C'est... Et j'ai fini avec 57 % du vote. Fait que c'était la révolution là, dans la région de ça. Et Saint-Nicolas, il y avait déjà eu des conservateurs au provincial, à l'Union nationale. Donc, c'était... puis il y avait déjà eu aussi un ministre qui est de Sainte-Perpétue, là, qui était le ministre de l'Agriculture au fédéral, puis avait été au fédéral, puis avait été ministre au provincial de l'Agriculture. Et puis, donc, il y avait un petit fond bleu ici, ça s'était bien reçu. Puis à Bécancour, c'était... il n'y avait pas une grande sensibilité à un parti ou à l'autre, là. Donc, le candidat, il avait été malade de celui qui était au pouvoir, le candidat libéral, pendant une bonne année, donc il n'était pas présent, puis il n'a pas été vu beaucoup. Alors j'avais facilement pu faire le tour, proposer un changement. Puis il y avait une vague là, qui est arrivée, ouais. Ça a aidé. Là,
il y a plusieurs nationalistes dans le groupe qui a été élu.
Les 57 du Québec, il y en avait 33 qui avaient voté oui au référendum de 80, parce que René Lévesque avait dit le beau risque. Lucien Bouchard, qui était... grand ami de Mulroney, avait fait le discours de cette île, avait écrit le discours de cette île dans lequel on parlait du retour du Québec dans l'honneur et l'enthousiasme. Et ça plaisait beaucoup comme discours aux gens.
Ça a été dépaysant pour vous d'arriver à Ottawa?
Très dépaysant. Je n'avais jamais été là de ma vie. Et là, tu es élu. Le lendemain, tu te promènes sur le trottoir, félicitations, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je loue-tu un logement? Je loue-tu un... local, je fais quoi? On ne prend pas de directive, rien. Là, 211 qui avait été élu. 209 ou 211, en tout cas. Puis là, j'ai du camp pour une semaine. Je vais prendre mon auto, je monte à Ottawa. Je m'en vais à Ottawa tout seul. Je stationne ma voiture. Je m'en vais au Parlement, il y a Tour Baptiste. Ouais, ça, c'est beau. Je m'en vais au Parlement central. Avec là, il y a le policier à la porte. J'ai dit, j'ai été élu. Il dit, quel parti? Progressiste conservateur. C'est dans l'Ouest. Allez-vous dans l'Ouest, à la salle 200. Là, je me rappelle, je m'en vais là, il y a une grande salle. Là, il y en a un qui m'accueille. Il dit, t'as été élu, là, où? Là, je dis, où? Il dit, attends une minute. Il vient, il va chercher une grosse boîte avec du courrier, comme une boîte d'épicerie, là, c'est une grosse boîte. Puis il me donne ça. Il dit, ça, c'est ton courrier. Comme j'ai dit, tu as un bureau? Il dit, ça va pas avoir un mois. Là. Il dit, tu vas avoir quelques directives la semaine prochaine là, pour te louer un bureau là, dans ton comté. Là, j'ai commencé à me chercher. Je suis revenu avec ma boîte, puis là, j'ouvrais ça, quelqu'un qui était un problème avec le chômage. Quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'il m'a fait avec ça? Je connais rien dedans. Je t'ai dit que j'étais perdu, puis là, je me disais que dans quelle affaire que je me suis embarqué. Puis j'ai commencé à appeler d'un bord puis de l'autre, puis je trouvais les tuyaux pour pouvoir aider ces gens-là, puis j'ai aimé ça. Et j'ai trouvé un local, mais c'était un petit local que j'ai encore. Il est trop petit, mais je le garde.
Vous en aviez un à Nicolette?
Puis là, j'avais promis de n'ouvrir un, Nicolette. Ouais. Il n'y en avait pas, Nicolette. Alors, je l'ouvrais un, mais là, il n'y a pas de budget. Alors, j'ai organisé un tournoi de golf. Et avec les profits, j'ai acheté les meubles pour pouvoir avoir un bureau.
Je t'ai entendu dire qu'à l'époque, ce n'était pas des gros salaires que vous aviez comme député.
42. Moi, j'avais comme professeur 42 000, puis j'avais 52 000 comme député, mais on avait 12 ou 13 000 non taxables à part. T'sais? Ça, c'était pour ça, c'était pour nos dépenses imprévues. Mais on n'avait rien pour le loyer, pour le logement, rien pour les repas. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui est élu, il arrive à Ottawa, s'il veut se prendre un loyer de 2 000 $ par mois, 2 200 $ par mois, tout de suite, il peut le prendre, puis on lui rembourse. On lui rembourse la collection de sa télévision, de son Internet. C'est payé, le stationnement est payé s'il y a un stationnement qui n'est pas compris. Et tout ça, mais c'est tous des avantages qu'on n'avait pas du tout, du tout. Et vous savez, il n'y avait pas de cellulaire en 84, il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait pas de fax. C'était tout un monde, là, c'était différent, c'était le paradis. Hein, parce qu'on prenait le temps d'écrire une lettre aux députés. On n'y envoyerait pas. Comme quand je rentre le lundi, des fois, il y a 300 courriels dans ma boîte courriel. Et j'ai eu jusqu'à 3 000, là, tu sais. Puis là, tu prends ça, il y en a bien que tu élimines, parce que c'est de surtout quand c'est de l'extérieur, de l'Ouest, puis que ça ne touche pas pantoute, là. C'est une chicane de paroisse, là. Mais aussi, il y a des gens qui critiquent, là, tu sais, qui critiquent telle affaire, mais là, il faut que tu prennes le temps. Moi, je réponds à tout, il faut que tu prennes le temps de leur répondre, ou de leur parler par téléphone, parce qu'autrement, ils vont répondre. Si on le front de t'écrire comme ça, ils vont avoir le front de répondre la nouvelle que tu réponds, que tu t'occupes pas d'eux, là, tu sais. Il s'agit de leur répondre pour tout à coup que le climat change entre l'individu qui a critiqué et qui, là, tout à coup, oui, puis on s'explique, oui, puis on lui parle bien poliment. Et généralement, la conversation se conclut toujours par « merci de m'avoir rappelé ». J'apprécie, on voit que vous êtes près des gens, puis tu sais, ils ont besoin de se faire rassurer des fois, puis d'autres fois, ils ont besoin d'être respectés, tout simplement.
Mais vous êtes beaucoup sollicité, et je crois que vous n'aviez pas de budget discrétionnaire à l'époque. Là,
pour... On n'a pas encore. Ce que l'on a, c'est un petit budget de publicité. Donc, on peut, par exemple, annoncer notre carte d'affaires sur un apron, sur le programme dans une église, sur une pancarte à la porte d'un festival, mais avec des moyens très limités par rapport, par exemple, aux fonds discrétionnaires que les députés provinciaux ont. C'est les seuls au Canada qui ont ça. Hein. Au Canada anglais, tout doit être normé. On ne peut pas laisser de discrétion ni aux ministres ni aux députés. Donc, les ministres n'ont pas de budget discrétionnaire à Ottawa, ni les députés. C'est complètement un autre monde. La politique au Québec est plus axée sur un peu comme la France. Le ministre peut arriver, dire à un fonctionnaire, montrer moi dans tel dossier, puis intervenir pour essayer, pour plaider, pour changer quelque chose. Mais ça ne se fait pas à Ottawa du tout, ça, ces choses-là. C'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui étudient, qui recommandent au ministre, puis le ministre signe en bas, c'est tout.
Vous avez été réélu en 1988, et là, les gros dossiers de l'heure, c'est le libre-échange et c'est l'accord du Lac-Meech.
À ce moment-là, c'était le libre-échange. C'était un référendum sur le libre-échange, et M. Parizeau était favorable, M. Bourassa était favorable. Fait qu'au Québec, ça a été facile, c'est bien qu'on s'est ramassé, avec 63 comtés sur 75. L'autre fois, on avait eu 57. Alors, c'était très fort. Mais là, après ça, quand il y a eu l'échec du lac Mitch en 90, là, moi, je n'étais plus heureux de rester là parce que je voyais que si ça n'avait pas marché, il n'y avait plus jamais rien qui aurait marché. Tu sais. Et que j'avais dit à ce moment-là à un journaliste du Toronto Star qui m'avait appelé, j'avais dit « If it's not a distinct society, it will be a distinct country. Hein. » Si ce n'est pas la société distincte, ce sera le pays distinct. Et c'est vers ça que moi, je m'aligne. J'ai eu une longue une discussion la veille avec M. Mulroney. Je l'ai remercié pour tous les efforts qu'il avait faits. Tout ça, il m'a dit « Attends, Louis, viens déjeuner demain avec moi. » Puis il dit « On va en discuter. » Puis il dit « Après ça, dit, si tu veux t'en aller, tu t'en iras, je comprendrai. » Tout ça, mais là, j'ai dit « Moi, je ne peux pas rester une journée de plus. » L'échec avait eu lieu samedi. Puis il voulait dire, le lundi, c'était le congé de la Saint-Jean. Puis mardi, je démissionne. J'ai dit. Et j'avais démissionné le mardi avec beaucoup de peine parce que j'aimais M. Mulroney puis je le respectais beaucoup. Puis il avait fait tous les efforts du monde. Mais en même temps, il avait fait la démonstration que ça ne marchera jamais. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'ouverture pour le Québec. Et on le voit là, avec M. Trudeau qui piétine dans le dernier budget toutes les juridictions, la santé, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments, toutes les juridictions provinciales, il rentre là-dedans. Il n'y a même pas un fonctionnaire qui peut gérer ça, donc il donne ça à l'entreprise privée pour le gérer temporairement. Les autres provinces ne sont pas équipées pour ça, donc nous autres, on a toute la structure, s'ils nous avaient donné notre 23 % de la population, du budget, on l'aurait appliqué dans le programme qui existe déjà, on l'a déjà, l'assurance médicaments, on l'aurait bonifié avec ça. La même chose pour les garderies, il est entré dans toutes les juridictions provinciales, encore plus dans le dernier budget, si bien que on voit qu'il y a un désir d'uniformiser le Canada et faire comme le NPD veut, là, c'est-à-dire les normes nationales, puis les provinces, c'est des gros conseils de ville, ça finit là. Tu sais.
Donc, vous devenez indépendant en 1990. Il y a des libéraux, Jean Lapierre, entre autres, qui joignent à vous.
Oui, là, ouais. Et puis M. Rochelot, le député de Hull. Deux libéraux qui, eux, n'acceptent pas Chrétien, qui est élu le 24, en même temps que l'échec du lac Mitch, le 24 juin. Il est élu chef du parti. Et là, eux, ils ne sont pas capables de travailler pour lui. Ils sont moins indépendants, eux aussi. Et il y a, par hasard, une élection partielle au mois d'août. M. Malépart est décédé, un député libéral à Montréal. Et là, on décide de présenter un candidat indépendantiste. Et là, qu'on va chercher Gilles Duceppe. Et là, eux, les deux, pendant l'élection, viennent nous rejoindre et on annonce qu'on forme. On formera un parti ensemble qui s'appellera le Bloc québécois. En se souvenant, c'est là que le nom a été découvert pendant la campagne électorale, en se souvenant du Bloc populaire en 1944, qui avait aussi tenté une expérience au fédéral. Alors là, on a réussi à gagner avec 64% de pourcentage cette élection-là. Ça a changé tout là, après. Il restait 2 ans avant. On a fondé ensuite le parti en 91. Et en 1993, on a balayé le Québec.
Ça a été un moment clé pour l'affirmation du Québec. Oui. Avec du recul, est-ce que vous félicitez de la direction que vous avez prise à ce moment-là?
Bien, c'est que après 1993, ça nous conduit au référendum de 1995. En 1995, le référendum a lieu et dans nos discours, on disait toujours « L'existence du Bloc sera un succès plus sa vie sera courte ». C'était ça qu'avait dit M. Bouchard en passant, que le référendum serait gagnable. Quand que le référendum, on l'a perdu, on se l'est fait voler dans le fond, là, on l'a su par après avec l'enquête, les 45 millions qui ont dépensé alors que la limite était 4 millions pour les deux parties, 4,5 millions. Là, on s'est réunis. Certains ont dit, moi, là, fini, je pense qu'on devrait tous s'en aller. D'autres disaient, ben non. Et là, la décision de groupe qui a été prise, c'est que si on s'en va, on démissionne tous, on donne notre place à ceux qui ont volé le référendum. Ça n'a pas de bon sens. on va surveiller une autre occasion de faire un référendum qui, lui, sera gagnant. Alors, on a la très grande majorité. Tout le monde a resté jusqu'à l'élection de 97. Là, il y en a qui ne sont pas représentés parce qu'ils avaient dit, moi, je viens pour un mandat, c'est tout. Et on aurait eu la chance en 96 de faire. Il y a eu un moment où les sondages étaient très bons puis qu'on aurait pu faire, mais M. Bouchard n'a pas osé. A déclenché. Fait que ça a été. On a fait l'élection de 97. Ensuite, on a fait toutes les élections. Ça a été bien, sauf celle de 2011. Il y a eu la vague orange, une vague inexplicable. 27 candidats élus sans avoir mis les pieds dans le comté. Heureusement, c'était des universitaires pour la plupart, donc il y avait une capacité intellectuelle d'apprendre. Mais ils avaient au-dessus d'eux le discours du NPD qui était des normes nationales. Donc, jamais que tu les entends parler du Québec.
Je reviens brièvement à 1993, lorsque oui. Le Bloc québécois forme l'opposition officielle. Comment c'était perçu qu'un parti souverainiste indépendantiste forme...
Ah, c'était épouvantable. Ouais. C'était dans les journaux anglais, là, c'était le délice. C'était incroyable. Là, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, mais Lucien Bouchard avait toujours un discours très rassurant. Il avait dit qu'on ferait l'opposition officielle comme le veut la Constitution, qu'on respecterait les règles, etc., etc. Mais nous autres, dans le caucus, on bougonnait un petit peu, on disait, c'est le temps, là. C'est le temps de faire des recherches sur comment l'argent, dans les sciences, comment est-ce qu'il y en a qui vont au Québec par rapport au reste du Canada, tu sais, faire des... Mais il a joué le grand jeu, il était très respecté, Lucien Bouchard. Et ça a fait qu'on a bien fait notre travail, mais nécessairement, on avait 54 comtés, puis le deuxième parti, c'était les réformistes de M. Manning. Il y avait 52 comtés. Eux, ils voulaient être l'opposition officielle parce qu'ils disaient, on est dans plus de provinces, eux sont dans une province. Mais non, c'est le président de la Chambre a fait faire une étude constitutionnelle, si on peut appeler ça comme ça, puis ça a conclu que c'est le nombre de députés qui compte.
Donc, vous l'avez dit, jusqu'en 2011, le Bloc obtient la majorité des sièges à toutes les élections. Donc, là, il y a la vague orange. Vous êtes d'un petit groupe, là, un petit noyau de quatre députés qui restent là. Comment vous vous sentez à ce moment-là?
Écoutez, quand je revoyais, mon groupe était réuni. Moi, je ne l'ai pas vu de venir parce que la candidate ne s'est jamais présentée dans le comté, jamais fait un communiqué, refusé toute entrevue. Donc, je n'ai jamais vu venir une vague orange dans mon comté. T'sais. Alors, le premier, on est rassemblé une centaine de personnes pour écouter les résultats. Le premier résultat qui sort, 70 à moi, 69 à elle. Oh, j'ai dit, la soirée va être longue et comme de fait, elle a pris d'avance. Toute la soirée, par 200-250, elle venait toujours. Et puis, il restait cinq bureaux de scrutin. Puis les cinq derniers, j'ai eu, il y en avait 10 700 au total. J'en ai eu 1000, elle en a eu 200, donc j'ai gagné à minuit et 20. J'étais déclaré perdant dans le journal La Presse le lendemain, tu sais, parce qu'ils arrêtent à minuit, eux autres. Mais là, quand je voyais tomber tous mes amis puis tout le groupe, là, je souhaitais tomber, moi aussi. Là. C'est, bon, je suis au subit, tant que mon candidat là, à être seul. Ouais. Quatre, dont un nouveau. Il y a un nouveau qui était élu parce que notre candidat ne s'était pas présenté. Puis lui, il s'était présenté, un ancien maire, qui était très connu, puis il a été élu. Fait que, il était lui, puis après ça, il y avait Mme Mourani. Puis elle, après ça, ça a été le chiard, en tout cas, de la chicane. Et puis elle a. Notre nouveau chef qu'on a élu, c'était un ami payé, il l'a expulsé. Donc là, ça allait mal. Là,
vous avez retrouvé, je pense, deux députés en 2015.
Là, lui, Mme Mourinier s'en va. Ensuite, celui de Victoriaville, M. de Bellefeuille.
Bellavance.
Ouais. Lui décide de s'en aller à la mairie, donc il démissionne pour siéger comme indépendant. Le petit nouveau qui est arrivé, là, mais lui, il décide de fonder un parti. Donc là, je suis tout seul. Là. Là, je suis tout seul avec assis au. Avec les 99 NPD à côté de moi, là, puis qui me disait quand est-ce que vous allez démissionner, vous? Je taquinais tout le temps, mais je t'ai fait, puis je tenais le drapeau. Pendant ce temps-là, on m'offrait des gens de Sorel, qui disaient tu devrais t'en venir, il va y avoir une élection à la mairie, là. Mais je me disais, ça se peut pas que le Bloc disparaisse. J'ai trop mis d'efforts là-dedans pour le fonder, dans mon comté, en plus de ça, que ça a été fondé. Puis j'ai trop mis d'efforts là-dedans pour l'abandonner, moi aussi. Donc, il me semble qu'il va se passer quelque chose.
Donc, Gilles Duceppe revient.
Puis là, avant l'élection, Beaulieu, qui avait été élu comme chef, M. Beaulieu, vous voyez bien qu'on est à 13%, qu'on n'a aucune chance. Il se rend voir M. Duceppe pour lui dire, venez donc, je vous donnerai ma place. Puis on ferait une espèce de petit congrès, là, qui est d'ailleurs encore là que j'ai eu la charge d'organiser, à Nicolette, à l'Hôtel Montfort, une grande réunion pour accepter la décision de que ce soit Gilles qui soit chef, puis que l'autre démissionne et on acceptait sa démission, qu'il y ait une transition, là. Alors, il fallait faire un congrès national de tout le monde. Beaucoup de monde sont venus, ils ont accepté. Et là, la campagne a très bien été. Cependant, on est fini à 10. Et pour être reconnu en chambre, tu sois 12. Donc, pas une scène de budget pour la recherche, pour les communications, rien. C'était encore un calvaire pendant de 2015-2019, surtout avec l'arrivée de Mme Ouellet qui...
Ça a été une période assez turbulente.
Turbulente et épouvantable. De 2011 là, à 2019, je ne voudrais jamais revivre ça. Et puis, tout à coup, une grâce de Dieu, M. Blanchette, qui était un animateur à la télévision, les trois ex,
ça s'appelait,
je pense, et qui était très, très performant, très, très, très aimé. Alors là, lui, ça le tente de devenir chef. Il vient me voir, il demeurait à Shawinigan, demain, viens me voir au bureau de Nicolette, mais il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, écoute, là, je vais te dire la situation. J'ai dit, on a 40 000 $ dans le compte au national. Il faut payer les employés pour le mois de décembre, on est en novembre. Il faut payer le 25 000 pour faire l'analyse financière. Il dit, moi, je suis pas inquiète pour l'argent. Mais il dit, j'aime ton optimisme. J'ai dit, je voulais te prévenir que c'est qu'on n'est pas riche, mais que tu serais accueilli à bras ouverts, ça, j'en doute pas. Par les membres, puis dans le caucus, tu seras le rassembleur. Deux semaines après, il annonce qu'il a l'intention d'y aller. 300 000 $ qui rentrent dans la même semaine au Bloc à Montréal. Oh! J'ai dit, ça, c'est un signe. Et là, ça a parti, là, mon ami. Là, c'est, tout le monde va devenir candidat. Puis on s'est ramassé à la grande surprise de tout le monde avec 32 députés. Là.
Une reconnaissance officielle comme parti.
Oui, tout ce qui s'entoure. Et là, le troisième parti, puis là, ils ont tous été réélus, les 32. Après, puis on a perdu un par 8. Ça veut dire un qu'on a eu de plus par 8 voix, l'autre par 12 voix. Et la prochaine fois, ben, on espère monter à 37, 38, peut-être 40 voix, 40 députés.
Comment expliquez-vous que les électeurs de Bécancour-Nicolet Sorel, qui étaient autrefois Bas-Richelieu-Nicolet, auparavant Bas-Richelieu, Nicolet-Bécancour et Richelieu, vous ont toujours resté fidèles malgré toutes les difficultés là, vécues au fil des ans, les turbulences?
C'est extraordinaire. Je leur suis très reconnaissant et reconnaissante. Faut dire que une relation de proximité avec les gens. Tous les téléphones qui arrivent à mon bureau, qui demandent à me parler, je les retourne le soir même, la journée même ou le lendemain matin. Je vois tous les courriels, tous les cas de comté, là, que ce soit les cas de chômage, les cas avec l'impôt, les cas avec les armes à feu, les cas de demande de pardon, les cas de passeport. On fait les passeports, par exemple, ça c'est apprécié qu'on les aide et tout ça. Et je suis sur le terrain tout le temps. Ça fait des journées remplies, là, le samedi, le dimanche, toujours entre 6 et 10 cérémonies par fin de semaine. J'aime ça, j'aime voir les gens et j'aime être présent. Et ça aide aussi.
Déjà raconté que vous n'hésitiez pas ou n'hésitez pas à aller voir un citoyen, une citoyenne qui demeure seul dans une maison isolée au fond d'une rue, d'un cul-de-sac. Il y a beau avoir juste une personne, vous y allez.
Oui, ça va arriver que je vais comme ça arrêter, comme ça. Bonjour, je suis votre député, je vais vous saluer. Ah oui, ils sont toutes mal, là, mais après ça, ils sont contents. Ah merci, puis je demande comment ça va, puis je m'informe de leur famille, tout ça. Puis en même temps, il faut surveiller tout ce qui se passe dans les journaux locaux, à la radio ici. À Sainte-Sophie-de-l'Évrard, il y a un diacre qui a fêté ses 25 ans comme diacre. Alors, je lui ai téléphoné. On a jasé un bon 10 minutes ensemble, 10-15 minutes ensemble. C'était un chic type. Il était content que j'aie pensé de l'appeler pour lui le féliciter. Alors, j'essaye d'être présent comme ça par téléphone ou par courrier ou par Internet pour pouvoir rester proche de la réalité des gens. Il y a quelqu'un qui m'avait dit en politique, rejoins les gens dans leur quotidien. Si l'exemple le plus bête, c'est que je me rappelle une madame, elle collectionnait les crayons de plomb avec une annonce dessus. Les crayons de plomb, mais il ne fallait pas qu'ils soient aiguisés, là. Une jeune fille, elle avait toute une collection. Son père était un gros organisateur libéral qui possédait un restaurant. Fait que moi, j'avais su ça. Tous les fois, je surveillais ça quand j'envoyais les garages. Tu sais, ouverture d'un garage, ouverture de si, je prenais un crayon. Puis c'était à moi d'avoir ça. Puis je l'envoyais par la malle. Ça, je vous parle de plusieurs années, là. Fait quand même 40 ans, je suis là. Presque 40 ans. Puis là, j'ai arrêté de manger. C'était assez abordable. Puis il me dit, tu sais que moi, là, la journée de l'élection, c'est moi qui ai conduit le candidat libéral. Oui, j'ai dit, je sais, vous faites bien ça, tout ça. Ben, il dit, la prochaine élection, là, c'est moi qui te conduis, toi. Il dit, t'as aidé ma fille, j'ai ça. Oui, j'avais l'avais rejoint dans son quotidien.
Petite parenthèse, Maurice Richard, qui était député libéral à
Oui.
l'époque, me racontait que vous covoituriez avec lui pour
Eh
aller
oui.
faire des annonces.
Eh oui, parce que je l'appelais, je disais, qu'est-ce que t'as qu'en fin de semaine de la place? Bon, ben, il dit, moi, je m'en vais, on se rejoint, puis c'est le trajet, elle permettait. J'embarquais dans ma voiture pour s'en aller ensemble, on m'embarquait dans la sienne. Des fois, on arrivait, il y avait pour une conférence de presse, il y avait les journalistes. Une fois, il y avait la télévision, moi, je me rappelle. Puis ils nous voient sortir tous les deux de la même voiture. Ils disaient, attendez, attendez, rentrez puis ressortez. Ils voulaient filmer ça pour pouvoir. Et c'était quand même assez rare. J'avais une très, très belle collaboration, une grande amitié pour Maurice Richard, même si on n'était pas de la même couleur. Au référendum, j'ai dit, bonne chance à toi, bonne chance à moi. J'ai dit, on ne se parle plus, là. On ne se verra plus. On visitait des places une après. Moi, je passais, lui passait à Longueuil après, puis il disait le contraire, mais c'était après, fini, fini. J'ai gardé encore des contacts avec lui lorsqu'il était directeur parc industriel, puis même après, là. Il est encore à temps partiel. Mais quand c'est à sa faillite, ou bien donc, lorsqu'on parle de lui dans les journaux ou ailleurs, je l'appelle, on jase ensemble. Et quand j'ai besoin de renseignements aussi, des fois, sur le parc pour indiquer à un entrepreneur comment faire application au parc industriel, je l'appelle, il est toujours collaborateur. Oui, c'est une belle relation. Ensuite, c'était mon ami Michel Morin qui est arrivé là. Et ça a été aussi une excellente relation que j'ai toujours avec lui. Il vient encore à mes assemblées politiques et on est en continuelle communication.
Pour quelqu'un qui aime le terrain comme vous, qui aime les gens, la pandémie, ça a dû être difficile.
Extrêmement difficile. Je me demandais comment je ferais, mais je vous dis que il y a un petit appareil noir qui s'appelle le téléphone là, qui a servi beaucoup, beaucoup, beaucoup à garder contact. Parce que les gens pouvaient encore m'écrire, mais c'était pas recommandé. Donc, ça travaillait par courriel. Puis, on siégeait uniquement par vidéo. Et ça a changé complètement la façon de communiquer avec les gens. Puis surtout, à Ottawa, on nous a permis de voter, on nous a installé un système dans nos téléphones pour voter à distance. Et ça, après ça, je voulais que moi, j'étais pour qu'on l'arrête, pour qu'on recommence à siéger normalement. Mais non, ils ont gardé cette option-là. Fait que souvent, le jeudi, ben, il va y avoir un débat, il va y avoir trois votes, puis il va y avoir à peu près 30 personnes dans la chambre, puis le reste, c'est tout par Internet qui vont voter. On remarque que ça a la même signification, ça a le même résultat, mais c'est bon. Il me semble que c'est pas pareil. C'est changer les habitudes. On prend toujours du temps avant de s'y habituer. T'sais. Mais ça a été très difficile, la pandémie, là. Puis devoir souffrir des gens, là, surtout dans l'isolement, surtout la première année, quand on voyait des gens mourir, abandonnés complètement dans leur foyer, c'est terrible, terrible, terrible de mourir abandonné. sans eau, souvent. Hein, il y avait des gens que c'était quasi immoral, puis, de pouvoir que ça existe. Et c'était très, 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 très difficile pour moi personnellement, mais pour aussi toute la communauté.
On va revenir dans un instant sur votre expérience comme président intérimaire de la Chambre de communes, mais d'abord, vous avez eu d'autres responsabilités pendant les différents mandats, pendant votre vie parlementaire. Leader parlementaire, président du caucus à trois périodes différentes, porte-parole du Bloc sur différents dossiers. Vous avez pas mal fait le tour. Donc, ça a été des belles expériences pour vous?
Oui. Ça, c'est... Tu sais, quand tu vas sur un comité, là, puis tu parles quasiment d'un sujet pendant des mois, là, tu viens que tu en connais pas mal long, là. Mais vous savez que la politique, quand tu es dans t'es comme dans un four, hein, et puis tu bouillonnes, toi, là, mais à côté, là, ils n'ont pas le même bouillonnement, là. Et la discussion ensuite, par exemple, avec tes amis de golf, c'est le fun, tu vas jouer au golf. Si c'est une journée de temps en temps. Mais mes amis que j'avais au début, là, tu viens que tes pères parce que tu n'as pas le temps de les voir. Puis deuxièmement, tu n'es plus à la même place quand tu discutes. Là, ils n'ont pas la même connaissance que tu as de profondeur dans les dossiers. Et si bien que la politique, au fond, ça isole. Ça isole. Tu viens que tu as des. Comme je disais des fois, des samedis soirs, je pouvais donner 300 poignées de main dans toutes les places que j'allais. Puis à 10 heures, je disais, moi, j'aimerais ça aller prendre un café avec quelqu'un, puis je ne savais pas qui appeler. Là, parce que la politique, ça t'isole beaucoup. Et c'est ça que je conseille aux jeunes quand ils arrivent en politique. Ne négligez pas là, de garder votre climat social qui était proche de vous, de le garder. Moi, j'ai négligé ça. Mais c'est sûr, après 40 ans, il meurt aussi.
Il allait bien. Donc, à titre de doyen de la Chambre des communes, vous avez d'office occupé le trône à quelques reprises, de façon temporaire, jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la Chambre. Je suis curieux de voir comment c'était perçu par les députés des autres formations politiques qu'un souverainiste préside la Chambre des communes.
D'abord, en 88, quand l'élection s'est terminée, j'étais quatrième de seniorité. Mais il y en a un qui s'est retiré, puis les deux autres ont été battus. Donc, j'ai tombé, moi, le premier, là, donc je suis devenu le doyen.
2008, hein?
2008, ouais. Excusez-moi, oui, c'est ça, 2008, là. Oui, il faut quand même faire quelques années, 2008. Et puis là, ce qui arrive, c'est que le greffier, à la première journée, se lève, monte sur du bas du trône et dit, j'invite le doyen de la Chambre à présider la journée. Puis la journée qui consiste à choisir le président permanent. Mais là, personne n'est au courant bien, qui est là, c'est moi qui se lève, tu sais. Là, je descends. Puis, mais le Toronto Star, lui, il avait vérifié, il a marqué « A separatist will preside Canada ». Un séparatiste présidera le Canada. Puis, il m'avait interviewé, puis j'avais dit « Bien, je vais faire ça selon les règles. Et je m'en vais pas me dire « Tiens, on va à Ottawa. » Moi, j'ai toujours été respectueux des traditions puis de la loi. Moi, je suis un démocrate. Je ne veux pas changer ça avec une guerre. La relation avec le Canada, c'est avec la démocratie. Fait que ça m'a bien passé dans l'article. Puis quand j'arrivais, c'est là que j'ai fait quelques histoires drôles un petit peu.
Vous êtes amusé en faisant ça.
Ah oui, puis là, je suis monté, puis ça a bien été. Je l'ai refait après ça à 5 élections. Mais ensuite, j'ai eu à le faire pour, lorsqu'il y a eu la démission de M. Rota, dans le scandale du nazi qui était venu s'asseoir en haut, là, dans l'ordre de la visite du président de l'Ukraine, là, il a été obligé de démissionner. Alors, il n'est pas obligé. Oui, les quatre, les deux, ils ont dit « Vous devriez démissionner », puis il a démissionné. Mais il était tellement affecté de ça que lui, selon les règlements, il devait présider à sa succession. Pour l'autre chose, mais il était trop affecté, c'est en allé chez lui. Là, on s'est retrouvé devant un vide, on est mercredi, c'était 3h30 de l'après-midi. Là, il dit, il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si la chambre finit à soir, demain, on peut pas, on n'a plus de président, on ne peut plus siéger. Puis on ne peut pas, dans une journée, faire l'élection le lendemain, parce que les gens n'ont pas eu le temps de faire leur campagne. N'importe qui peut se présenter. Derrière, il y en avait 7 qui se sont présentés à la succession après lui, tu sais, par Ottawa. Alors là, on dit, faudrait remettre ça, là, le mardi, lundi, c'est congé. Donc, remettre, nommer quelqu'un qui se rende jusqu'à mardi matin, puis à mardi matin, on commencera par l'élection du président. Et c'est là qu'ils ont dit, faut, les quatre leaders se sont réunis, puis ont dit, il faut trouver quelqu'un que personne ne va s'opposer parce que ça prend une résolution unanime de la Chambre pour le nommer, pour changer la réglementation de la Chambre, parce que ça n'existe pas, la réglementation. Là, maintenant, c'est ajouté que c'est, quelqu'un peut être nommé. Fait que là, il m'a appelé. Moi, j'étais en train de manger un sandwich. C'était à 5h15 à peu près. Et puis, à mon bureau, pour faire des correspondances, il m'a dit, tu veux-tu être président demain? J'ai parti à rire. J'ai dit, c'est, vous voulez rire? Non, non. Ils ont dit, on va te proposer, le conservateur, le libéral va te proposer, le conservateur va t'appuyer, puis voici le texte de la résolution qui te nomme là, puis qui te nomme aussi président de l'élection de mardi matin, parce que ça devrait être le vice-président, mais le vice-président se présente, va se présenter, on le suit, fait qu'il dit, tu vas être président de l'élection. Alors, j'ai accepté, je dis, mais oui, va voir. Mais après ça, je me demandais, qu'est-ce que je vais faire là? Mais ça a passé la résolution unanime. Donc, le soir, j'ai rencontré les greffiers. Et le lendemain matin, je me suis assis à la table avec tous les greffiers costumés. Puis ils m'ont dit, voici l'ordre du jour que nous vous proposons. Et j'ai dit, je ne pense pas que j'ai les connaissances pour en discuter et la changer. C'est correct. On y va avec ça, mais il fallait que je dise. Il fallait que je fasse la parade. Il y a une parade avant d'entrer. Alors là, j'ai dit pas. J'ai fait la parade. Les gens, ils me taquinaient quand je suis rentré, tu comprends. Là, ça. Mais ça a bien été, ça a très, très bien été. Puis j'ai mis un peu d'humour, puis les gens ont accepté, ont bien accepté.
C'est un peu paradoxal, tout ça, qu'un indépendantiste maîtrise, parce que je pense que vous maîtrisez très bien toutes les règles parlementaires héritées
ça, là,
du...
J'avais pas de problème. C'est le président, là, tu sais, quand il se lève, automatiquement, tout le micro s'éteigne, et puis tu y vas, puis t'as toujours... un conseiller à côté qui est bien sur l'ordre du jour, puis tout l'ordre du jour est établi avant. Alors non, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est très prestigieux, puis c'est très impressionnant. Quand tu es sur le trône en avant, tu sais, c'est pas la ligne d'accueil qui est en avant de toi, là, c'est le Parlement du Canada, là, veut dire, donc c'est des gens de partout qui sont là, là, puis ils ont tous été élus, là, comme toi, là, puis toi, tu présides, j'ai été... J'ai trouvé ça très impressionnant. J'ai aimé l'expérience, bien sûr.
Donc, vous avez battu à peu près ou presque tous les records de longévité au Parlement. Qu'est-ce qui vous reste maintenant? Est-ce qu'il vous en reste un?
Non, le 3 avril, j'ai battu le dernier. En fait, la longévité, c'est sans arrêt. Moi, je pensais que vous l'auriez avec 42 ans. Vous êtes toujours sur 42 ans, Laurier. Mais il y a deux défaites, Laurier. Donc, son record arrête après la première défaite. Monsieur Chrétien, par exemple, après 21 ans, il a démissionné, puis il est revenu 5 ans plus tard. Son record, c'est 21 ans. C'est pas 40 ans, comme on dit. Il a été 40 ans au Parlement. Il peut peut-être avoir flâné au Parlement alentour, mais son record, c'est ça. C'est sans arrêt. Et c'était M. Herb Gray qui avait le record le 2 avril. Alors, le 3 avril, je suis devenu le recordman de l'histoire du Canada. Et là, plus ça va, plus le record est haut, là, tu sais.
Ça fait combien de...
12 mandats.
12 mandats.
12 mandats, donc ça va faire 40 ans le 4 septembre prochain.
On va revenir récemment, le 29 février 2024, l'ancien premier ministre Mulroney nous a quittés.
Oui.
L'essai qui nous a permis de voir que malgré vos divergences de vue avec lui, vous aviez beaucoup, beaucoup de respect pour lui, là.
Oui. Moi, c'était. Je pense que quand on étudiera l'histoire des premiers ministres au Canada, ça sera celui qui sera considéré comme le plus grand premier ministre à cause de ses réformes. D'abord, il a réformé l'administration. Il a éliminé 25 agences fédérales qui ne servaient à rien ou qui une fortune qui était inutile de les avoir à nous. Exemple, il a réglé la fusion pour Air Canada, puis il y avait une autre compagnie aérienne importante dans l'Ouest, ils ont fusionné. C'est effrayant tout ce qu'il a pu faire en termes d'administratif, plus la fameuse négociation de libre-échange avec les États-Unis qui a réussi, qui ça faisait depuis. Wilfrid Laurier avait essayé, puis il n'avait pas réussi. Donc, ça faisait depuis 1900, même un petit peu avant 1900 qu'on en parlait. Et ça a été pour le Québec extraordinaire parce qu'on avait un chômage de 12 %. Puis 2 ans après, on avait un chômage de 6 % comme l'Ontario, là, tu sais. C'est parce que nous, on est une province exportatrice. Alors, ça nous ouvrait un marché de 300 millions. 300 millions de personnes, c'est extraordinaire. Ça a été extraordinaire, qui s'est conduit ensuite au libre-échange entre les trois, Mexique, Canada, États-Unis. Et puis, c'est la réforme, la TPS. TPS, où il y a vraiment, il s'est fait critiquer, c'est épouvantable tout ce qu'il a pu faire. Jean Chrétien a fait son élection de 93 en disant « I will scrap it ». Je vais scraper cette taxe-là. Rendu là, il s'est rendu compte que c'était un coup de génie. Ça a été extrêmement bon pour les entreprises et pour l'économie. Donc, seulement ces deux grandes réformes-là. Puis au point de vue international, il s'est impliqué dans la libération de Mandela en Afrique du Sud, là. C'était le premier ministre du Commonwealth à dire « Moi, j'impose des sanctions économiques », malgré que Mme Thatcher, la présidente du Commonwealth, Mme Thatcher, était complètement opposée à ça, puis les États-Unis aussi. Non, c'est ça. Puis les autres pays ont suivi après, et ça a amené la libération de Mandela. Écoutez, il y avait 3 millions de personnes là-bas, il y avait 100 000 blancs, puis il y avait juste les blancs qui avaient le droit de vote, ça n'avait pas de bon sens. Et lui, il avait dénoncé ça. Et au niveau international. Puis quand il y a eu aussi en Éthiopie, là, la famine, il a été un des leaders là-dedans, leader pour convaincre tous les pays d'aider pour arrêter cette famine-là. Alors, c'était un premier ministre au niveau international extrêmement solide, au niveau des interventions humanitaires, puis de la réputation qu'il avait internationale était très bonne. Réforme économique. Il a réformé la loi sur la langue française. Ça n'a pas été facile non plus. Avec ces dinosaures de l'Ouest qui ne voulaient pas, il l'a fait pareil. Il était vraiment, vraiment, vraiment. Puis ensuite, les Lac-Mich, à convaincre les 10 premiers ministres de signer l'entente du Lac-Mich. Ensuite, voter au Parlement unanimement moins 2 personnes, au Parlement fédéral, provincial et Ontario. Puis, c'est malheureusement une seule erreur qu'il a faite, c'est qu'il a donné 3 ans aux provinces pour signer le Lac-Mitch. Et pendant ce temps-là, Trudeau père puis M. Chrétien ont décidé de dénoncer cela. Ils ont été en élection. Ils étaient en élection pour devenir chef du Parti libéral avec Mme Copps puis M. Martin. Les autres étaient pour le Lac-Mitch, ils avaient voté pour. Puis le Parlement avait voté pour. Puis lui, il était contre. Fait sa campagne là-dessus, puis ça a fait déraper à la dernière minute.
J'aimerais aller peut-être sur un tout autre sujet plus actuel. Là, il y a un climat, il semble en tout cas y avoir un climat d'intimidation présentement en politique fédérale. Le plus bel exemple récent, celui du fameux mot WACO utilisé par oui. M. Poilievre, donc cinglé à l'endroit du premier ministre Trudeau.
Oui, ça se dit pas.
Donc, en 40 ans de politique, j'imagine que vous sentez que quelque chose a changé là, dans le ton, puis dans...
Il y a eu des moments difficiles là, dans certaines époques. Exemple, l'affaire Favreau, là, quand que le ministre Favreau, qui était perçu pour devenir successeur au Parti libéral comme chef, un homme extrêmement brillant, puis qui a des discours passionnants, là, il avait été poigné parce qu'un certain prisonnier s'était évadé, là. Il s'était évadé d'une prison, puis il était responsable de ce ministère-là, puis il avait tout mis ça sur le dos. En tout cas, ça a été épouvantable, le discours. John Diefenbaker était très, très, très tough comme chef d'opposition. Et il avait été obligé de démissionner, puis il a tout perdu sa crédibilité, puis en même temps, il a perdu tout son avenir politique, malheureusement, Guy Favreau. Ça, c'était très dur, cette période-là, avant moi, ça. Mais depuis que moi, je suis là en 84, et on a connu des bonnes engueulades, mais là, il y a vraiment un climat là, où tu n'oses même pas aller t'asseoir à côté d'un autre député, d'un autre parti. C'est le combat et c'est l'utilisation d'un langage ordurier et aussi d'un langage souvent complètement faux. Et tu sais, on va dire, je donne un exemple. Quand il parle son discours, puis il veut critiquer le gouvernement, il l'appelle la coalition libérale bloc, en français. Mais quand il fait la même question, après ça, un peu plus tôt en anglais, la coalition libéral NPD. Donc, il ne vérifie pas si vraiment on a voté pour ou contre. Il veut dénigrer l'adversaire tout le temps. Alors, tous les moyens sont bons. C'est un peu pour gagner. Et puis, M. Trudeau, même s'il répond parfois très bien, il est maladroit aussi quand il embarque dans le jeu. Puis qu'il s'engueule tous les deux, c'est pas bien, bien éloquent. Quand il a qui a été expulsé de la Chambre, M. Poilievre, il y avait une classe de... Il y avait une classe de secondaire 1 qui était en haut, qui était venue à Ottawa pour visiter le Parlement, tout ça, puis pour assister à une période de questions. Alors, imaginez-vous la leçon qu'ils ont reçue en écoutant ça, ces engueulades-là. Fait que là, pour ça, quand ils arrivaient à l'école, ils ne disaient pas que c'était d'un niveau intellectuel haut, là. Et c'était pas un bel exemple à leur donner, parce qu'on leur dit, jusqu'à niveau, c'est ça qu'il faut faire là, dans la vie, c'est pas ça. Alors, c'est le climat, et c'est une période là, très difficile.
Malgré le fait que vous avez toujours été dans l'opposition, bien, sauf évidemment avec M. Mulroney, là, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi à laisser votre marque, à changer des choses?
Où j'ai été content, c'est que cette semaine, on a voté unanimement le projet de loi anti-SCAB, et j'avais été le premier à déposer ça. On l'a déposé 11 fois, le bloc. Moi, c'était quand j'étais progressiste conservateur en 87. Imaginez, puis quand j'avais déposé ce projet de loi privé au Canada anglais, il dit oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou-là? Il y en a. Et c'est là que les journalistes m'appelaient, puis je dis savez-vous que ça existe au Québec depuis 77 et que ça a aidé énormément à la diminution de plus de 50% des grèves, là, tu sais, des grèves longues. Et dans le domaine médical, par exemple, parce que j'ai dit, oui, c'est un projet anti-SCAB, mais tu dois aussi avoir des services essentiels. Puis là, je leur expliquais ça. Ça a cheminé, ça a passé ensuite en colonie britannique. Et puis là, bien, ça vient d'être envoyé au Sénat, là, puis ça va revenir du Sénat, puis après le Sénat, sa sanction royale, et ça devrait être mis en application. Mais il y a une petite clause que j'aime pas, c'est dans l'application 12 mois après l'acceptation par le Sénat. Ça veut dire que ça peut aller au bout de l'élection puis tomber à l'eau, là. Mais c'est je suis très fier de ce projet de loi-là que j'ai déposé moi-même deux fois, là. Mon parti aussi a déposé par d'autres là, qui étaient responsables des relations de travail. Et qu'ils l'ont déposé, puis ça a fini par cheminer pour gagner. On a de ces choses-là qui... Moi, le travail, je l'ai vécu comme simple député au pouvoir et simple député dans l'opposition. Jamais je voudrais retourner au pouvoir, jamais, jamais. Parce que tu es assis là comme une poire, puis tu es obligé de voter comme parti tout le temps, tu peux pas critiquer, tu peux pas questionner, tu peux rien faire. Alors, tandis que là, dans l'opposition, si tu présentes un projet de loi ou tu poses une question qui a tellement de sens, généralement, le gouvernement va s'en emparer pour aller chercher la crédibilité de cela. Donc, tu peux faire progresser les choses beaucoup plus dans l'opposition qu'au pouvoir.
Au moment où on enregistre la présente entrevue, il y aura bientôt 3 ans que vous avez été élu pour un 12e mandat. Est-ce que vous vous préparez pour une 13e élection?
Ah, c'est déjà tout prêt.
Oui.
Non, mais oui, bien sûr que ça demande... c'est toujours dans pendant l'élection que ça se règle, hein, que c'est les gens qui décident, mais pour y aller, il faut avoir préparé notre financement. C'est dur. Hein? Bon, c'est ça, coûte 5$, nous autres, là, parce que les conservateurs ont enlevé la loi qui donnait 2$ du vote à chaque parti, là, à chaque vote. Puis quand les libéraux sont revenus au pouvoir, ils l'ont pas remis en place. Alors, on doit se débrouiller pour financer notre parti, notre direction de parti pour beaucoup de personnes, là. Puis ensuite, pour notre propre comté. Moi, tout est prêt. Ma portion est payée. Hein, puis tout ça, l'aspect financement, c'est important. La machine électorale, bien, c'est pas mal la même, tu sais, mais cependant, c'est différent. C'est plus les réseaux sociaux que le porte-à-porte et les assemblées. Là, il y en a moins. Une assemblée d'investiture, habituellement, puis c'est tout. Après ça, on y va avec les événements publics qui se passent pendant la campagne. On s'arrange pour participer, pour voir le plus de monde, puis c'est surtout dans les commerces qu'on visite. C'est différent.
Luc Plamondon, merci beaucoup.
Ben, c'était un plaisir. Moi, j'en avais encore. J'ai bien aimé. Merci beaucoup.
Les grandes entrevues sont une production de Via 95. Entrevue, recherche et montage, Jocelyn Ouellet. Collaboration à la production et à la diffusion, Éliott Tousignan, Justin Savard, Philippe Saint-Pierre et Louis-Martin McCardle. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.